Vie locale et associative. Culture et société. Politique. Et même du sport. Du lundi au jeudi, le pédalo, la quasi quotidienne d'infos estivales de Radio Campus Angers.
Au programme du pédalo ce soir, on parle jeux, société et jeux de société avec Clément et Mélodie Vigneault. Ils ont ouvert il y a 3 semaines, 1 mois, un bar à jeux de société en plein cœur du quartier de la Doutre à Angers. On en parle avec eux juste après. En deuxième partie d'émission, on retrouvera notre traditionnelle parenthèse poétique estivale et un reportage réalisé par Adélie Femme, bénévole à la radio. Elle est allée autour du lac de Maine pour aller, et accrochez-vous bien, manger des fleurs. Ajustez votre gilet de sauvetage, le pédalo, c'est parti.
Le pédalo sur Radio Campus Angers.
Salut Clément et Mélodie.
Bonjour.
Vous avez à deux ouvert un bar à jeux de société, les Caspions, en plein cœur de la Doutre. Vous êtes passé par toutes les émotions et notamment l'étape toujours difficile de la campagne de financement participatif qui a bien marché.
Absolument.
Qui a hyper bien marché, 125% à peu près, ce qui vous a permis d'ouvrir donc, les Caspions. Ça y est, ça a ouvert ses portes il y a un mois. Dans un article publié dans les colonnes de West France, on peut lire que, et je cite, « Vous avez concrétisé un de vos rêves ». Waouh !
Bah oui, c'est vrai. En fait, ça fait quelques années maintenant qu'on se dit que ça aurait été vraiment sympa de lâcher un peu le salariat et le mode de vie dans lequel on était pour monter quelque chose autour d'une passion commune. C'était au début une blague et en fait, on a réussi à faire en sorte que cette blague devienne quelque chose de réel.
C'est vraiment au moment du confinement, en fait, qu'on a eu un peu ce déclic, où on s'est dit, bah allez, on tente et puis on verra ce que ça donne. Et puis nous voilà.
Le déclic du jeu au moment du confinement, comme beaucoup, beaucoup, beaucoup de Françaises et de Français, même de personnes à travers le monde. Hein.
Alors le déclic du jeu, nous, on l'a eu bien avant, plutôt, on est déjà en 2009-2010 pour moi et puis un peu avant pour toi. Par contre, le déclic confinement fait qu'on a énormément joué et en vrai et sur... PC, puisqu'on pourrait peut-être en reparler, mais il y a des plateformes de jeux de société en ligne.
Oui, Board Game Arena.
Exactement.
500 000 joueurs. Hein.
Ouais, c'est énorme.
C'est énorme. C'est énorme.
Ouais. Et oui, c'est à ce moment-là qu'on a vraiment décidé que c'était cette passion-là qui allait nous réunir autour de ce projet commun. Ouais.
Qu'est-ce qui vous fait rêver dans ce projet?
Bah, c'est la possibilité de pouvoir vraiment faire de notre passion notre métier, en fait, finalement, pouvoir un peu partager ce qu'on aime faire entre nous, avec des amis, mais à des inconnus qui peut-être connaissent pas forcément le jeu de société et qu'on peut un peu prendre par la main et les guider. Donc ça, c'est vraiment, je pense que c'est vraiment ce qui nous plaît. Ouais.
Et d'un point de vue plus pragmatique, c'est faire nos propres choix, quoi.
C'est vrai.
Le côté vraiment entreprise, c'est être libéré de toute hiérarchie et vraiment prendre nos propres décisions, alors des bonnes et des moins bonnes.
C'est ça.
Ça, c'est pas gênant, c'est notre affaire. Mais ouais, c'est vraiment ça qui est super agréable à vivre.
Je posais la question, puisque votre passion, vous, c'est le jeu. Or là, vous ne jouez plus du tout. Vous êtes dans l'accompagnement, dans la restauration, même dans le débit de boissons. Mais vous jouez moins.
Alors, on va te livrer un tout petit secret. On pensait qu'on n'allait plus jouer du tout. Et il se trouve qu'on arrive au bar assez tôt pour faire notre petite mise en place et préparer la salle. Et en général, on a toujours une petite demi-heure de battement pendant laquelle on a le temps de sortir une petite boîte de jeux.
Oui, parce qu'il faut les tester, tous les jeux que vous
Absolument,
proposez à vos clients.
Absolument, c'est un bon prétexte de se dire qu'il faut s'entraîner à expliquer les règles et se remettre dans le bain de chaque jeu. Donc voilà, on en ressort à nouveau dès qu'on peut.
Est-ce que le jeu fait rêver?
Bah, je pense que oui, dans le sens où on a vraiment tellement d'univers différents dans chaque jeu que peu importe les goûts, les couleurs, on trouvera toujours un jeu qui va correspondre un peu à ce qu'on aime et ce qui nous fait rêver. Ouais.
Et si ça n'a pas encore été inventé, ça le sera
voilà.
Prochainement.
Pourquoi c'est important de jouer, même quand on est adulte?
C'est une question, je dirais...
Bah déjà, ça permet de garder son âme d'enfant, parce que nous,
ouais.
On est des adultes, mais on est aussi des grands-enfants.
Un jeu de société sur 5 aujourd'hui en France est vendu à un adulte qui va l'offrir à un autre adulte.
Ouais, ça ne me surprend pas du tout.
Non.
Ça ne me surprend pas du tout, puisque quand je vois, justement, depuis que nous, on est vraiment adeptes du jeu de société, la facilité avec laquelle on a pu communiquer ça auprès de nos proches, de nos familles, de nos amis, donc que des adultes, c'est vraiment pas surprenant. Et puis la complexité des jeux tels qu'ils existent aujourd'hui, en fait, ils s'adressent pour beaucoup à des adultes.
Je pense qu'à une certaine époque, on était vraiment cantonné à tout ce qui est Monopoly et Bonne Paye, et c'est des jeux qui ont été très connotés enfance. Et en fait, en développant un peu les jeux de société, ben on arrive dans des thèmes et effectivement des niveaux de complexité qui n'ont plus rien à voir avec des jeux enfants, et on est vraiment sur des gammes clairement adultes, quoi.
On joue aussi beaucoup peut-être pour échapper à une certaine réalité. Vous avez peut-être essayé de recréer un univers un peu comme un univers de jeux de société dans votre bar à jeux.
Ouais, moi j'aime bien penser notre bar comme un peu une parenthèse à part où on se pose un peu avec ses amis, voilà, on pose un peu notre téléphone de côté et puis on se lance dans une partie, on voit pas le temps passer, quoi. C'est un petit peu le principe.
Ouais, je sais pas si on a pensé le bar comme un jeu de société. En tout cas, on l'a pensé comme des gens qui jouent à des jeux de société chez eux. Et vraiment, on avait vraiment envie dès le début, c'est ce qu'on a toujours dit avec les gens avec qui on a voulu travailler, c'est qu'on voulait créer un endroit où les gens ils se sentent comme dans leur salon, quoi.
Pourquoi les gens viennent chez vous ?
Parce qu'ils veulent être dans leur salon. Non, parce
qu'ils veulent essayer de nouveaux jeux, ils veulent découvrir de nouvelles choses, ils veulent découvrir un nouveau concept aussi qui n'existe pas encore.
Au-delà de tout ça, c'est pourquoi est-ce que les gens viennent jouer ?
Les gens viennent jouer, je pense, parce que déjà, ça permet de maintenir un certain lien. Je sais, par exemple, que quand on va aller retrouver ses amis dans un endroit où on va juste avoir à discuter, mine de rien, le jeu de société, ça permet de mettre un petit peu une activité qui va un peu au-delà du bavardage. Une fois qu'on a fait le tour des sujets, on se retrouve à plus trop savoir quoi faire parfois.
Il y a des gens, peut-être comme nous, dont la passion, c'est pas de parler pendant 2 heures,
c'est ça.
Mais ça va être de parler un petit peu, de jouer beaucoup. Et du coup, ça permet de passer plusieurs heures ensemble sans pour autant être contraint de parler en permanence.
Oui, pour autant, le jeu fait société, comme on dit, le jeu de société. Et vous dites en même temps que c'est quelque chose de palliatif à la parole et au vivre ensemble. On ne sait plus quoi faire, on va jouer.
C'est ça, exactement.
Oui, parce qu'on n'est pas obligé de parler en jouant. Il y a beaucoup de jeux qui se font dans le silence. Il y a des jeux qui se font juste
dans... Dans c'est même la règle.
Ouais, c'est exactement. Il y en a qui se font en riant, en rigolant, en faisant des onomatopées. Enfin, il y a tout type de jeux pour s'exprimer et être en société. Ouais.
En cherchant, en préparant cette interview et en cherchant quelques infos, je suis tombé sur le site Gus & Co, un site qui parle de jeux de société et qui, voilà, c'est des gens qui ont monté un bar à jeux à Genève qui tiennent ce site. Et alors, je vais lire, ça va être un peu long, mais si je trouvais ça très intéressant, je vous demande de réagir ensuite. Le jeu nous donne un but. On vise la victoire, bien sûr, et pour y arriver, on doit passer par plusieurs étapes, attaque et défense, recherche et acquisition d'éléments, etc. Tous ces stades rendent le jeu captivant, car il nous donne une mission, nous savons quoi faire et où aller, ce qui n'est pas toujours le cas dans la vie en général. Nous vivons, nous travaillons, nous cherchons le bonheur, mais ce n'est pas facile de définir son but personnel dans la vie. Qu'est-ce que vous en pensez ?
C'est assez vrai. C'est assez vrai parce que, en fait, le jeu, est, même s'il y a un univers de liberté par justement les univers, etc., le jeu est cadré par des règles.
Et
on sait exactement où on va dès le début de la partie.
Faire, ouais.
On sait où on doit aller pour remporter ou en tout cas pour prendre du plaisir et jouer selon les règles. Dans la vie, c'est un petit peu différent parce qu'il n'y a pas de règles du jeu.
Oui, et en même temps, c'est un peu bizarre de se dire ça, qu'en même temps, ça crée un espace de jeu et de liberté presque enfantine, tout en devant être cadré et cloisonné dans des règles qui nous enferment et en sortir, c'est quand même très compliqué. Il y a peut-être des jeux où il n'y a pas de règles ?
Il y a des jeux où... Alors, c'est un peu vrai ce que tu dis. Je pense à un jeu, notamment, je pense au jeu, un jeu qui s'appelle Mytho.
Oui.
Le but du jeu, c'est de tricher, en fait. Et donc, là, on est complètement à contre-pied de la règle du jeu, puisque le jeu autorise les gens à tricher.
Je suppose aussi que jouer est intéressant parce que ça va développer des capacités cognitives, un peu comme le jeu vidéo.
Ouais, je pense que l'un des points forts du jeu de société, c'est que ça permet vraiment de se challenger, mais sur vraiment différents aspects, parce qu'on va avoir des jeux qui vont un peu stimuler la créativité, l'adresse, le réflexe, la logique. Enfin, on a tellement de champs différents qui sont mis à l'exercice que dans les jeux de société que voilà, je pense que c'est une bonne façon de se challenger, quoi.
On parle du jeu, mais on en parlait aussi tout à l'heure de l'intérêt de faire société. Il y a aussi cette manière de se retrouver ensemble, de jouer et de passer un bon moment. Comment est-ce que vous incitez les gens à se retrouver et à être ensemble ?
Au bar ou
au bar ou dans la vie de manière générale?
Bah, au bar, en fait, on n'a pas trop ce travail à faire parce que c'est vrai que jusqu'à présent, mais bon, on n'a que 3 semaines d'ancienneté, les gens viennent déjà entre amis. Donc en fait, ils viennent tout en sachant qu'ils vont passer ce moment ensemble.
On peut venir seul au Caspian?
C'est une excellente question. C'est un...
je suis étudiant, j'arrive à Angers, je ne connais personne, mais j'adore les jeux de société.
Alors c'est quelque chose sur lequel on est en train de travailler justement pour la rentrée de septembre, puisque pour l'instant il n'y a pas d'étudiants, pas beaucoup d'étudiants sur Angers. Mais effectivement on a une grosse demande et on veut répondre à cette demande de personnes qui viennent seules avec un système de table ouverte, c'est-à-dire qu'on vient à 3 entre amis. Il y a beaucoup de jeux qui se jouent à 4, à 5, donc on pose un petit drapeau ou quelque chose sur notre table pour indiquer aux gens seuls que notre table est ouverte à d'autres joueurs, seuls ou pas seuls d'ailleurs. Si on est 3 et puis qu'il y a un couple qui arrive, on peut être 5 autour d'un jeu, il n'y a pas de souci. On y travaille.
Y a aussi tout cet aspect dans le jeu du fait de gagner ou perdre. Est-ce qu'on est quand même les bienvenus au Caspian si jamais on est mauvais joueur?
Ouais, je pense que oui, mais bon, après, faut juste faut être raccord avec ses amis et pas finir fâché non plus, ce serait dommage.
Ouais, c'est vrai.
Comment on fait quand on est mauvais joueur? Comment on fait pour ne plus être mauvais joueur? Est-ce que l'un de vous deux est mauvais joueur?
Je suis plus mauvais gagnant que mauvais perdant. Ouais, j'aime bien charrier mes petits
c'est vrai.
Mes adversaires quand je gagne une partie.
Moi, je suis pas mauvaise joueuse, mais j'aime bien gagner évidemment et j'aime bien tout faire pour gagner sans tricher par contre.
Alors, pour répondre directement à la question, c'est pas facile de changer quand on est mauvais joueur. Pour autant, il y a des jeux qui vont se jouer en coopération.
C'est ça.
Donc en fait, on va y jouer tous ensemble.
Oui, justement, c'est la question. La transition est formidable. Donc il y a différents types de jeux. Il y a une grande partie des jeux, ce sont des joueurs qui s'affrontent. La compétition, comment est-ce qu'on fait pour s'affranchir de cette envie de gagner qui est finalement assez égoïste, presque égotique?
Et bien justement, par les jeux coopératifs. Qui eux sont alors existent depuis très longtemps, mais se sont aussi pas mal développés. On en voit beaucoup sortir.
Ça veut dire que si jamais je joue contre quelqu'un et que je ne joue pas contre le jeu, il y aura toujours cette envie de gagner qui est très construite dans la société dans laquelle on vit d'ailleurs.
On peut avoir envie de gagner, mais pas envie de gagner à tout prix.
Après, on peut avoir envie de gagner contre le jeu, mais main dans la main avec ses coéquipiers. Il y a aussi ce côté-là de se challenger sans pour autant qu'il y ait forcément un perdant. On perd tous ensemble, on gagne tous ensemble.
Alors, je vais reciter un extrait de ce que j'ai lu tout à l'heure dans Gus & Co. Alors, je recommence. Ce besoin de nous détacher de la meute est certainement un réflexe animal qui remonte à loin dans notre évolution. Supérieur aux autres, nous prouvons notre valeur, mais surtout notre capacité à survivre. Le jeu nous permet justement de nous mesurer aux autres et de connaître la gloire par la victoire.
Je pense qu'il y a un petit peu, c'est vrai, dans le jeu de société, un côté, la satisfaction qu'on ressent quand on gagne une partie, c'est un peu le côté, tiens, sur ce pan-là, j'ai été plus fort que les autres, mais c'est un peu ce qu'on trouve dans le sport.
Moi, je le vois pas forcément comme ça. Enfin, c'est ce que je te disais tout à l'heure en off, je suis plus satisfait par le fait d'avoir construit une stratégie au fil des tours de jeu, d'avoir planifié, d'avoir... Et je tire satisfaction de ça plus que d'avoir écrasé les autres.
En même temps, c'est super difficile. Tu construis une stratégie tout au long de ta partie et finalement tu perds. C'est-à-dire que ta stratégie n'était pas bonne. Donc c'est tout ce que tu construis pendant 2 heures, 3 heures, 4 heures de partie. Alors que vraiment, je vais mimer, alors évidemment c'est pas très radiophonique, mais quand je gagne, moi je vais « Oh, c'était super !» Tu t'étires un peu comme ça, tu t'écartes les bras, satisfait.
Ça c'est le mauvais gagnant que je suis.
Ah, oui. Les jeux en collaboration, ça peut aussi être intéressant avec cette notion de gagner contre le jeu. Pour autant, on n'enlève pas cette notion de gagner.
Non, c'est ça, ça n'enlève pas la satisfaction, en tout cas, à mon sens. Moi, je dis ça parce que je suis vraiment une amateur des jeux full coopératifs. Et pour moi, la satisfaction, elle est encore plus grande parce que du coup, on a quelqu'un avec qui partager le plaisir de la victoire. Et pour moi, ça, c'est encore mieux, quoi.
Il y a aussi des univers de jeux qui peuvent être complètement différents et qui vont nous amener sur différents modes de victoire. Par exemple, je pense à Risk. Risk, le but du jeu, c'est d'écraser les autres avec sa grosse armée, tandis qu'il y en a d'autres. Par exemple, moi, j'ai fait l'acquisition de Botanique récemment, très sympa, et en fait, on doit construire des réseaux de tuyauteries pour faire pousser des fleurs. Évidemment, la manière de gagner est aussi complètement différente.
Je pense qu'en fait, selon le type de jeu, effectivement, la manière de gagner va être différente parce qu'on va avoir des jeux de société où ça va juste être un personnage contre un autre personnage qui va avoir gagné au partir du moment où l'autre personnage n'aura plus de points de vie. Donc là, on est vraiment dans « je t'écrase de façon très frontale ». Et on va avoir à côté de ça des jeux de gestion où la victoire va plus être basée sur un système de points de victoire et la victoire va être un peu moins offensive, si je puis dire, en tout cas un peu moins brutale, agressive, un peu moins brutale, c'est ça.
En off, tout à l'heure, vous me disiez qu'il y avait aussi certains jeux qui peuvent rentrer de manière assez frontale avec la société dans laquelle on est, avec beaucoup de jeux basés sur le colonialisme qui sont obligés aujourd'hui d'être réécrits pour pouvoir être entendus, tolérables, acceptables. Parce qu'il y a aussi ça quand même dans notre culture à nous français, cette culture très napoléonienne, d'aller conquérir le territoire de l'autre, d'aller gagner contre l'autre et pas avec l'autre.
Oui, oui, c'est vrai. C'est, on a pu le voir sur certains jeux. D'ailleurs, il y a un jeu qui s'appelle, qui est très connu. C'est un des jeux les plus joués qui s'appelle Les Colons de Catan. Qui s'appelle, je me demande si ça s'appelle pas maintenant Catan tout court.
Oui, si maintenant c'est Catan tout court.
Ouais.
À l'origine, c'était Les Colons de Catan. Et c'est vrai qu'il y a tout un univers sur, oui, effectivement, le colonialisme, l'esclavagisme, l'exploitation d'ouvriers. Qui tend à, sur des rééditions de jeux, à disparaître au profit d'autres terminologies à minima.
En tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit aussi qu'il y a énormément de types et d'univers qui peuvent être présents dans les jeux de société, un peu comme dans les jeux vidéo. Pourquoi plus les jeux de société que les jeux vidéo, alors que maintenant, avec Internet, on peut jouer aux jeux vidéo, évidemment en collaboration ou bien aussi en ligne ensemble. Qu'est-ce qui vous a amené, vous, personnellement, vous deux, aux jeux de société plutôt qu'aux jeux vidéo ?
Alors, nous jouons absolument aux deux. Et,
ah oui, d'accord.
Et les jeux de société et les jeux vidéo sont absolument complémentaires.
Après, ce que je pense, c'est que les jeux de société sont plus intergénérationnels, dans le sens où, du coup, les générations qui sont moins habituées à avoir une souris et un clavier sous la main peuvent plus facilement se l'approprier. Et du coup, il y a des ponts qui se font plus facilement entre les enfants et les grands-parents, par exemple. C'est plus... C'est plus intergénérationnel.
Mais il y a aussi beaucoup de ponts entre les jeux vidéo et les jeux de société. Ouais. J'en veux pour exemple de nombreux jeux de société qui sortent, qui sont issus à la base d'un jeu vidéo. Et d'ailleurs, on parlait tout à l'heure de la plateforme Board Game Arena. On est sur la frontière entre le PC et le plateau, puisqu'on fait du plateau sur PC.
Oui, et justement, cette frontière est quand même très limitée. Moi, par exemple, j'ai beaucoup joué avec mes colocataires sur Board Game Arena. On s'amusait vraiment, passait des soirées entières à tester de nouveaux jeux, des fois qui ne nous plaisaient pas du tout d'ailleurs, mais on se marrait bien. Et finalement, je racontais à ma mère, on a passé la soirée à faire des jeux de société. Et finalement, au moment, elle me dit, trop bien, envoie-moi une photo.
Un écran, un clavier, voilà.
Oui, c'est ça. Et je me suis retrouvé à prendre en photo mes deux colocs assis côte à côte sur le canapé en face de leur ordi. C'était effectivement pas forcément faire société.
Et pourtant, c'est faire société, mais de la façon plus moderne dont on le fait aujourd'hui.
Mais c'est vrai que rien ne remplace un plateau et puis des petits jetons à manipuler quand même.
Oui, c'est sûr qu'il y a un certain charme à ça qu'on retrouve pas sur la plateforme en ligne, c'est sûr.
Ah, vous jouez à quoi comme jeu vidéo ?
Bon, on joue plus beaucoup depuis un an et demi, mais on a joué beaucoup à un MOBA qui s'appelle Dota 2.
C'est comme League of Legends, un peu dans la mécanique.
Un peu mieux. Et on a joué beaucoup à des petits jeux indépendants.
C'est quoi les mécaniques de jeu qu'on peut retrouver entre les jeux vidéo et les jeux de société ?
Je réfléchis, je pense au jeu Civilization, typiquement. On est sur ce qu'on va appeler un 4X. En jeu de société, donc c'est, si je dis pas de bêtises, explore, donc on explore le territoire, on s'expand, on extermine, il y a un quatrième X dont j'ai oublié le nom, mais en gros c'est vraiment des mécaniques de jeu où on va aller, découvrir un territoire, monter une civilisation, et puis monter une force militaire de façon à exploiter, voilà c'est le dernier mot, on va exploiter des ressources, et puis après on va aller exterminer l'adversaire. Donc typiquement un jeu de plateau... peut copier ce système de civilisation. Ouais.
Donc Caspion, c'est votre bar à jeu. Alors je redonne rapidement l'adresse, c'est 11 rue Beaurepaire à Angers. Hein. Si vous deviez me citer tous les deux votre jeu préféré et me l'expliquer en quelques secondes.
Alors moi je dirais Dig Your Way Out. En gros c'est un jeu où on se retrouve dans la peau d'un... Alors c'est bizarre le thème dit comme ça, mais il est excellent ce jeu, je vous assure.
Dans la peau parce que Clément se marre fort.
Dans la peau d'un prisonnier en fait, dans une cellule un peu type américaine, un peu style Orange is the New Black pour ceux qui ont vu la série. Et en gros l'objectif c'est de sortir de prison, et ce qui est bien dans ce jeu c'est qu'on peut faire des équipes avec quelqu'un et être contre une autre équipe en fait. Donc il y a le côté un peu coop mais aussi versus que j'adore.
Je rigole parce que je perds tout le temps et je suis, c'est un des rares jeux où je suis un peu mauvais perdant.
C'est très vrai.
De mon côté, alors je fonctionne plus au jeu du moment qu'au jeu préféré. J'aime pas trop qu'on me pose la question du jeu préféré.
Alors ton jeu du moment,
ouais, c'est mon jeu du moment, je dirais Unmatched, qui est un jeu qui se joue à deux joueurs en 1 contre 1. Et c'est un petit jeu de figurines où on est tous les deux sur un plateau et le but c'est de faire tomber les points de vie de l'adversaire à zéro. Et ce qui est marrant, c'est qu'on va jouer des personnages de la culture populaire qui sont très différents. Alice au Pays des Merveilles, Sinbad...
Le roi Arthur,
Méduse, enfin voilà, tout, c'est très intéressant.
Dernière question avant de conclure. Caspion, ça m'a tout de suite fait penser à Caspier.
C'est ça.
Rien à voir.
Si, c'est ça. Si, absolument.
Ah, oui, bravo.
Ah oui, c'est fou. Racontez-moi en 2 secondes.
L'idée, en fait, c'était de trouver un nom qui nous ressemble un petit peu. Et c'est vrai que Caspier, Caspion, en fait, nous, on est tous les deux les petits derniers de nos familles respectives. Et on a toujours été un peu les petits Caspiers de la famille. Donc on s'est dit que ça nous ressemblait plutôt pas mal. Et accessoirement, le côté un peu Caspier, je te mets des bâtons dans les roues, tout ça, c'est un peu ce qu'on retrouve dans le jeu de société. Le côté on s'affronte, mais toujours dans la bonne ambiance.
Merci beaucoup Clément et Mélodie d'avoir répondu à nos questions. Les Caspions, c'est ouvert de 16h à minuit le jeudi, vendredi et samedi, de 15h à 21h le mercredi et dimanche. On peut y boire et y manger, c'est au 11 rue Beaurepaire. On peut y boire et manger bien. Alors j'ai regardé la carte, salive instantanée, ça a l'air bon. Et je dis pas ça parce que j'ai pas d'argent quoi, malheureusement. donc 11 rue Beaurepaire à Angers. Pour plus d'infos, évidemment, leur site internet lescaspions.com.
C'est ça.
Merci beaucoup.
Merci
suite,
beaucoup.
Petite pause musicale sur Radio Campus Angers. On vient d'écouter un morceau de Spectateur, un morceau qui s'appelle Wake Up in Istanbul, évidemment très très lourd, un Spectateur angevin bien connu de vous chers auditeurs et auditrices. Vous êtes toujours sur Radio Campus Angers, il est exactement 18h24 et 30 secondes, et on écoute un reportage d'Adélie Femme, une bénévole de Radio Campus Angers qui est avec nous pour l'été, qui a participé à un atelier au lac de Maine. Elle a découvert des plantes et des fleurs que nous avons dans nos jardins, sur lesquelles on peut marcher de manière assez nonchalante, mais qui en fait sont comestibles.
Aujourd'hui, je vous emmène avec moi assister à une animation aussi intrigante qu'étonnante. Tout se déroule à 9h30, un peu tôt en ce dimanche 10 juillet 2022. C'est avec joie que je me rends à un événement au lac de Maine intitulé « Des herbes sauvages à l'assiette ». Oui, vous avez bien entendu, le but est de reconnaître des plantes et des fleurs sauvages qui poussent autour du lac de Maine pour pouvoir ensuite les cueillir et les cuisiner. Je me rends sur place où nous sommes accueillis par l'animatrice Isabelle. Pour bien commencer, elle nous fait goûter des boissons qu'elle a fait elle-même. Infusion froide et rafraîchissante à la feuille de figue. Un peu fort, mais ça change de l'éternel iced tea. Place à l'action. Nous partons nous balader dans le parc du lac de Maine pour cueillir les différentes plantes et fleurs. Attention, plusieurs précautions sont à prendre avant de cueillir les fleurs.
On ne cueille pas plus d'un tiers du spot. On ne cueille pas plus d'un tiers de la plante. Parce qu'un tiers de la plante, ça veut dire que la plante, elle va survivre à condition qu'on ne lui prenne pas toutes ses fleurs, parce que sinon elle ne peut pas se reproduire. Hein. Et évidemment, si on arrache la racine, elle meurt. Donc là, minimum 20 pieds sur l'espace. Il faut minimum 20 pieds. Parce que si moi je vais cueillir un tiers et que chacun d'entre vous allait cueillir un tiers, eh bien il n'y a plus rien. Donc on se dit, s'il y a moins de 20 pieds, on ne cueille pas. Voilà, on évite les zones polluées, en règle générale. Donc pas le long des routes parce qu'il y a les gaz d'échappement, pas dans un fossé où il y a un champ, un beau champ sans coquelicots, une belle monoculture, parce que là on se doute que c'est fortement traité.
Voilà, on est parti. Tout d'abord, facile, Isabelle nous présente l'ortie. On savait déjà qu'on pouvait l'utiliser en soupe, la fameuse soupe d'ortie. Mais connaissiez-vous l'usage de ces petites boules, les graines ?
Les deux plantes font des chatons. Ça s'appelle des chatons, comme les noisetiers, les peupliers et tout ça. Donc, il y a des chatons mâles et des chatons femelles. Et évidemment, celui qui porte les graines, c'est
femelle.
Ce qu'on va récolter, nous, ce qui nous intéresse, c'est les graines. Parce que les fleurs, il n'y a pas tellement d'études encore. Mais les graines, elles ont les mêmes propriétés que la feuille, l'ortie. Ça veut dire riche en tout.
Nous voilà avec notre première récolte dans le panier. On continue la balade. Sur le chemin, on rencontre des pissenlits.
Un pissenlit se reconnaît parce que ça forme une rosette, parce que sa nervure principale, elle est bombée. Et il y a un pédoncule, une fleur.
Oui.
Un pédoncule, une fleur. C'est très important.
Ah,
le
oui,
pissenlit, faut quand même, le mieux, c'est quand même de le manger en salade. Ah. Alors au départ, on ne va pas trop aimer son goût amer parce qu'on n'a pas été éduqué avec ce goût amer. On peut mélanger avec du riz, hein, ça va être composé, on peut mettre un petit peu comme ça. Ouais, tout se mange en pissenlit, de la racine à la fleur et même le pédoncule avec le latex blanc, il se mange.
Ouais.
Tout est bon dans le pissenlit.
Maintenant, ça se complique. On apprend à reconnaître le plantain. C'est une plante verte que l'on reconnaît à ses nervures parallèles sur ses feuilles. On peut manger uniquement ses feuilles en les cuisinant en lasagne, par exemple. Isabelle nous fait goûter une feuille de plantain. Cela a un goût très fort de champignon. Après avoir cueilli ces plantes, on en découvre d'autres, dont les noms sont durs à prononcer et mémoriser. On se dirige ensuite vers le jardin de la maison de l'environnement pour y cueillir des fleurs. Après quelques minutes passées sous un soleil de plomb, notre panier contient désormais des fleurs de calendula, de la bourrache, des fleurs de coquelicot, de capucine, de ciboulette et d'onacre. Avec ce panier bien rempli, on rentre épanoui, préparé à manger avec ce qu'on a cueilli. Au menu, des rouleaux de printemps. Chacun se met au travail. On lave les fleurs, enlève les plantes inutilisables et préparons la table.
L'idée, c'est d'avoir une assiette la plus colorée possible. Sachant que tout ce qui est de couleur rouge-violet, ce sont des anthocyanes, des antioxydants. Tout ce qui est vert, c'est de la chlorophylle, donc c'est des purgatifs. Tout ce qui est amer, c'est cholagogue et cholérytique. Vous savez, c'est pour aider le foie, hein, le foie. Donc en fabriquant de la bile et en aidant à éliminer. Donc c'est vraiment important.
Puis on passe à l'étape la plus importante. Goûter enfin nos préparations. Le goût est assez surprenant et inhabituel. C'est nouveau et rafraîchissant, c'est assez appréciable. Je demande à mon voisin de table ce qu'il en a pensé.
J'ai fait moi-même mon rouleau de printemps avec plein de fleurs, plein de saveurs boisées.
Je repars de cette matinée conquise par l'utilisation de ces plantes pour cuisiner. Pour la plupart d'entre elles, je ne savais pas qu'on pouvait les manger.
Le pédalo sur Radio Campus Angers.
Un reportage d'Adélie Femme pour Radio Campus Angers. Il est, on fait encore hein, les top horaires, on adore ça, on est un tout petit peu en retard. Il est 18h29 sur Radio Campus Angers et c'est l'heure de notre pause poétique. Et on commence par un texte lu par l'association Éclat.
Peut-être qu'en écoutant ce texte, vous serez dans la chaleur de l'été. Et je vous propose un contrepoint pris dans un extrait du recueil Neige de Saint John Perse. Nul n'a surpris, nul n'a connu, au plus haut front de pierre, le premier affleurement de cette heure soyeuse, le premier attouchement de cette chose fragile et très utile, comme un frôlement de cils. Sur les revêtements de bronze et sur les élancements d'acier chromé, sur les moellons de sourde porcelaine et sur les tuiles de gros verre, sur la fusée de marbre noir et sur l'éperon de métal blanc, nul n'a surpris, nul n'a terni cette buée d'un souffle à sa naissance, comme la première transe d'une lame mise à nu. Il neigeait. Et voici, nous en dirons merveille, l'aube muette dans sa plume, comme une grande chouette fabuleuse en proie au souffle de l'esprit, enflait son corps de dahlia blanc. Et de tous les côtés, il nous était prodige et fête. Et le salut, soit sur la face des terrasses où l'architecte l'autre été, nous a montré des œufs d'engoulevent.
Un texte lu par Jocelyne Renoux de l'association Éclat. On continue notre pause poétique avec une performance de Lali Hurtubise et Emma Garofalo. Elles sont deux étudiantes et elles ont réalisé une performance dadaïste dans le cadre de leur cursus d'art plastique à l'Université catholique de l'Ouest. Elles sont accompagnées par leur professeur Charlotte Hubert. Faites attention, c'est très court.
Mais la mauvaise terre noire répond avec ce cheveu de rasoir. Point.
Bien sûr, une schizophrénique basket aime quand sa gueule en pense. Point.
Depuis votre croisée, Vest avait comme notre personnalité qui voudriez. Point.
D'ailleurs, les Bleus Étienne signifieraient parce que ce groupe du Deleuze. Point.
Vraiment, une première tonton demande pour votre foot. Qui marche. Point.
Par contre, votre tournée, savon et chez la musique en choisissant. Fin.
C'est déjà la fin de ce pédalo. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Nous, on se retrouve dès demain à bord de notre embarcation favorite. En tout cas, d'ici là, n'oubliez pas, je le dis et je le répète, les bonnes ondes, c'est pour tout le monde.
Une émission à retrouver en podcast sur le www.radiocampusangers.com.